troisième temps de notre série d'émissions de la Fabrique de l'Histoire en réécoute sur la Révolution française. Aujourd'hui, une écrivassière engagée sous la Révolution française, Rosalie Julien. Après avoir lundi évoqué Olympe de Gouges dans un documentaire de la Fabrique de l'Histoire, nous vous proposons ce matin de nous approcher d'une autre figure de femme pendant la Révolution française. Elle est bien moins connue que Olympe de Gouges, elle s'appelle Rosalie Julien. Femme des Lumières, elle entretient une correspondance suivie avec son mari, député à la Convention, et avec son fils, missionné à Tarbes par le comité de salut public pendant la Révolution. Elle assiste au soubresaut de la Révolution et Annie Duprat, qui vient de publier Les Affaires d'État sont mes affaires de cœur, une sélection de lettres de Rosalie Julien, et Dominique Godineau, professeur à l'université de Rennes 2, dresse ce matin, en compagnie de Séverine Yattard de la Fabrique de l'Histoire, le portrait de cette inconnue célèbre. À Marc-Antoine Julien fils, à Amiens.
Paris, 29 septembre 1803. Je prends la liberté, mon cher Julien, de commencer tes économies cette année en supprimant l'envoi des livres que tu me demandes, montant à la somme de 82 francs. Je m'en vais te motiver mes raisons. Si après cela tu les désires encore, tu n'auras qu'à parler et je te les expédierai. Tu as plus tard qu'en entier. Tu en as fait des extraits qui sont à Amiens et qui peuvent être aussi bons que ceux de Blanchard. Ainsi, 10 francs de gagné. Le guide de l'histoire, par nez, me paraît, à moi, sur l'étiquette, un de ces livres nouveaux qu'il ne faut pas acheter sur le titre. C'est le consulter. Ici, 10 francs. Pour Madame de Sévigné, je trouve bien hardi qu'on ait osé en faire un extrait. Il n'y a rien à supprimer de cette charmante femme. Il faut la voir tout entière. Comme elle est partout, on peut s'en procurer la lecture en attendant qu'on puisse la placer dans le plus joli rayon de sa bibliothèque. Leçon de géographie par Gautier, ce sont de ces jeux où l'auteur tient le dé et gagne tout seul. Une ancienne géographie dit autant et cela ne diffère que par la forme. Science de l'histoire par Chantreau, je n'ose rien en dire, sinon qu'il la vend à haut prix, 30 francs. Tu ajournes toi-même les tableaux de Le Sage, il ne me reste que le traité d'économie politique de Say. Par inclination pour Louis, par respect pour la science, et plus encore pour ton goût. Voilà une longue lettre, bien peu intéressante. Mais tu veux que j'écrive, et j'écris. Je suis passionnée pour la Révolution de Naples. J'y reconnais bien des personnages de la nôtre, et je trouve que ce choc des intérêts et des passions humaines produit les mêmes détails et les mêmes résultats. Ces terribles révolutions, qui ont changé le monde à différentes époques, présentent les mêmes tableaux et finissent par la même catastrophe. Si la science de l'histoire instruisait les hommes, qu'ils s'épargneraient de mots. Mais ils croient toujours mieux faire que leurs prédécesseurs, et il n'y a que les malheurs de l'adversité qui leur prouvent qu'ils ne sont ni plus habiles, ni plus heureux. Je dirais presque de tous les états, contentons-nous de celui-là, de peur d'en rencontrer un pire.
Voilà pour cette lettre qui ouvre notre émission d'archives de ce mercredi, une lettre écrite par Rosalie Julien et publiée dans ce livre « Les affaires d'État sont mes affaires de cœur ». Bonjour à vous, Séverine Yattard, bonjour Dominique Godineau et bonjour Annie Duprat.
Bonjour.
C'est vous qui éditez et publiez ces lettres chez Belin. Alors ce sont des lettres qui sont connues puisqu'il y a déjà eu des travaux d'édition au 19e siècle, mais elles avaient été caviardées par un descendant de Rosalie Julien et elles avaient été anonymisées en particulier. Il y a eu d'autres éditions depuis, il y a eu des thèses qui ont été consacrées, en particulier d'une élève de Timothy Tackett à cette femme, Rosalie Julien, mais vous nous offrez une sorte de florilège de ces lettres qui sont bien plus nombreuses que ce qu'on trouve dans le livre de chez Belin, de cette Rosalie Julien qui certes est connue des historiennes et historiens qui s'intéressent à la Révolution française parce que ce fonds est extrêmement intéressant, mais qui est peu connu du grand public, Annie Duprat.
Oui, en fait, les historiens de la Révolution française connaissent très bien la famille Julien parce que Marc-Antoine Julien, son mari, et député conventionnel, montagnard, régicide. Et Marc-Antoine Julien fils a été un des collaborateurs très proches de Robespierre et ensuite a mené une vie très longue jusqu'en 1848 et a beaucoup écrit sur l'histoire de l'éducation. Donc la famille Julien est une famille connue.
C'est une famille de la bourgeoisie marchande ?
Oui, alors Rosalie est née Rosalie Ducrollet, elle est née à Pontoise et elle est fille de marchands merciers, c'est-à-dire une corporation importante hein, dans la France d'Ancien Régime. C'est de la bonne bourgeoisie assez riche et son mari, Marc-Antoine de la Drôme, est propriétaire foncier. Donc c'est une catégorie sociale plutôt aisée.
Mais ils auraient pu tomber au moment de la Révolution française de l'autre côté, ils vont participer à la Révolution et même être assez actifs les uns et les autres dans cette famille, dans la Révolution et dans les parties les plus avancées de cette Révolution, en l'occurrence Annie Duprin.
Alors, c'est ça qui est très très étonnant, parce que dans la famille de Rosalie, par exemple, elle a une sœur qui s'appelle Charlotte et qui a épousé un des officiers du roi qui défendait la Bastille. De temps en temps, elle dit que c'est un petit peu difficile, les relations familiales. Et alors, en revanche, ce que l'on sait de la famille Julien avant la Révolution, c'est que c'était des gens des Lumières et qu'ils participaient aux sociétés savantes, ils lisaient, ils discutaient Necker. Et Romans est quand même un centre avant la Révolution, où il y a eu l'Assemblée des Notables. Donc les tout débuts de la Révolution française, ça commence Romans, Vizille, Grenoble.
Dans le Dauphiné.
Voilà, dans le Dauphiné.
Cyril Niatin.
On peut se poser la question, en tous les cas, Annie Duprin, de cette correspondance foisonnante, plus de 1000 lettres, et des raisons, des hypothèses sur le fait que Rosalie Julien ait écrit comme ça en permanence, en se demandant si finalement, pour elle, cette correspondance n'est pas un journal et qu'elle pensait peut-être sans doute qu'il serait conservé et publié. Enfin, en tout cas, comme source historique, c'est extrêmement d'une richesse incroyable.
Oui, alors ça a effectivement toutes les apparences en fait d'un journal. C'est bien pour cela qu'au XIXe siècle, quand son arrière-petit-fils Édouard Locroy a publié une version caviardée, il l'a appelé journal d'une bourgeoise. C'était à la fois pour attirer l'attention du public, journal d'une bourgeoise pendant la Révolution. Ça a raté d'ailleurs, hein, le journal en question n'a eu aucun succès à l'époque. Mais surtout, Rosalie se présente exactement dans sa correspondance comme les femmes, enfin les gens au XVIIIe siècle, pour qui la correspondance n'était pas privée. Et les lettres étaient destinées souvent à être lues, alors en petit comité ou en moyen comité, et en particulier, on le sait, à Romans ou à Valence. Hein, elles sont lues, à Paris, c'est discuté. Donc elle sait très bien, et elle écrit tellement bien que j'ai pensé que ce n'était pas nécessairement écrit au fil de la plume.
Mmh. Dominique Guadino, vous êtes spécialiste des femmes de l'Ancien Régime et de la Révolution française, pendant la Révolution française, et vous avez réfléchi justement à cette culture en particulier des femmes de la fin de l'Ancien Régime et de la Révolution française. Dans cette première lettre qui nous était lue par Mélodie Horus, c'est un conseil à son fils, un conseil de lecture d'une certaine façon, mais on voit l'étendue du savoir et de la connaissance de Rosalie Julien, certes après la Révolution, mais on considère, quand on lit cela, qu'elle a beaucoup lu avant la Révolution, avant de se lancer même dans cette Révolution française.
Oui, oui, et ce que l'on peut dire, si on veut resituer ça, de ce point de vue-là, elle n'est pas non plus exceptionnelle. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes étaient comme ça, mais il y en a quand même un certain nombre. On le découvre petit à petit, au fur et à mesure qu'on retrouve des textes qui sont publiés, enfin des lettres, des journaux, etc. On se rend compte qu'il y avait quand même un nombre, enfin, on peut pas dire un nombre, mais disons que une femme cultivée qui avait beaucoup lu, enfin, je dirais qu'elle avait lu la même chose que les hommes, après tout simplement, hein, il y en a en proportion qui est loin d'être négligeable.
Oui. Qu'est-ce qu'on en sait, justement, de l'éducation de Rosalie Julien? Alors, on sait qu'elle sait parler certaines langues, l'italien, oui. Entre autres, c'est ce que vous dites, Annie Duprin, mais elle a eu un précepteur,
Alors, là, c'est un tout petit peu un mystère, mais il y a des hypothèses très fortes que l'on peut fournir. À Pontoise, il y a les Ursulines qui éduquent, instruisent aussi bien les jeunes filles. Et j'ai cherché, évidemment, aux archives de Pontoise, mais je n'ai pas trouvé de liste d'élèves hein, pour vérifier que Rosalie Julien ait pu être instruite là-bas. En revanche, récemment, tout récemment, hein, a été publiée aux presses universitaires de Rennes, la correspondance, enfin pas la correspondance, mais une histoire de Madame de Maran, qui est une femme qui adore la connaissance, et elle est du Maine, donc et début 18e siècle. Et Madame de Maran a à peu près la même culture que Rosalie Julien, et elle est elle. Alors là, l'historienne qui a travaillé, qui s'appelle Mathilde Chollet, elle a trouvé beaucoup d'archives, et elle voit bien que ces gens-là sont instruits par les Ursulines très souvent.
Et on pense aussi à la publication en ligne qu'on peut trouver sur le net, faite entre autres par Anne Verju, de la correspondance des époux Morand, qui est à peu près similaire, même si eux sont engagés dans la contre-révolution à Lyon. Donc entre un mari et une femme, une correspondance, ils sont éloignés par la Révolution française. Et on voit bien effectivement que cette culture, ce type de culture de Rosalie Julien correspond aussi à ce type de culture de ces bourgeois lyonnais que sont les Morand, en l'occurrence Dominique Godinot.
Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on peut peut-être rajouter quand même, c'est que pour les femmes, bien souvent, c'est... parce que là, on parlait des Ursulines. Les Ursulines donnent une bonne éducation, mais ces lectures, elles sont postérieures. C'est-à-dire, c'est souvent, une fois qu'elles sont sorties... La plupart, elles ont une éducation conventuelle dans ces milieux-là. Mmh. Et c'est quand elles sont sorties du couvent qu'elles se mettent à lire. Enfin, il y a une volonté... Ces femmes qui sont
instruites, ça aiguise le désir de connaissance.
Oui,
vous voulez
et puis
dire.
Il faut qu'elles aient ce désir. C'est-à-dire toutes les une femme qui n'aurait pas ce désir de connaissance n'aurait pas le même niveau culturel. Et ça part d'un désir, d'une volonté, qui est souvent d'ailleurs après on peut voir ça une affaire de couple, parce que c'est ensemble. Par exemple, Rosalie, moi j'étais très frappée. Elle dit nous lisons. Nous lisons nos lectures, c'est-à-dire elle et son mari quand elle écrit à son frère. Donc il y a on sent qu'il y a un partage, une complicité intellectuelle
et amoureux.
Oui, bien sûr, les deux vont ensemble. Et voilà, on pourrait penser aussi à Madame Roland.
Oui, bien sûr, évidemment, on peut penser effectivement à Madame Roland. Alors une autre lettre de Rosalie Julien qui nous est lue par Mélodie Auru. Elle est adressée à Marc-Antoine Julien, le père, donc son mari, à Vienne en Dauphiné, chez Monsieur Besson. Chirurgien.
Paris, lundi 5 octobre 1789, à minuit. C'est à genoux, mon bon ami, que je vous écris pour rendre à la Providence 1 million d'actions de grâce de ce qu'elle vous a retenu jusqu'à ce moment dans le Dauphiné. C'est à genoux que je vous prie de ne pas quitter cette province et de retourner à Romans, où j'irai vous joindre au plus tôt. Paris était ce matin aussi agité que ces fameux 14 et 15 juillet. La disette qui nous tient au collet, depuis 4 jours, désespère tout le monde et une anecdote de Versailles est venue nous achever. Des gardes du roi et des officiers du régiment de Flandre ont, dit-on, foulé aux pieds la cocarde nationale et arboré la cocarde noire. Le canon et la poudre n'auraient pas produit un effet plus funeste, ni un mal plus prompt. Le faubourg Saint-Antoine, les dames de la Halle, l'innombrable cohorte des citoyens de la capitale de Touran, de tout sexe et de tout âge, couraient çà et là dans les rues. La faim d'un côté et la terreur de l'autre. Rien de pitoyable comme ce spectacle, et rien de si effrayant que la scène qu'il va produire. Ils sont tous partis à Versailles. À 4 heures, hommes, femmes, troupes, canons, et Monsieur de Lafayette à leur tête en dépit de lui-même, et après avoir épuisé toute son éloquence pour réprimer la fougue de la multitude et empêcher cette démarche. Dieu Tout-Puissant, veillez sur tous.
Voilà une lettre du 5 octobre 1789, qui nous rappelle un épisode où les femmes ont joué un rôle, Dominique Godinot, évidemment, c'est la montée à Versailles, et c'est la peur que l'on entend aussi dans cette lettre, et on reviendra sur cette peur avec Annie Duprat dans un instant, c'est la peur, effectivement, d'une femme qui se trouve prise dans la tourmente révolutionnaire.
Mais est-ce qu'elle est dans la rue? On peut se poser aussi la question, ou est-ce que c'est relayé par quelqu'un? Parce que vous évoquez ça, elle évoque ça à un moment dans une lettre... On se demande si c'est sa couturière ou sa domestique qui, elle, va en Paris. Donc,
ce qui est très intéressant, c'est que Oui, elle doit être dans la rue. Elle entend. C'est-à-dire, c'est un témoin extraordinaire par ce qu'elle dit, mais aussi par le fait qu'elle raconte ce qu'elle, alors soit ce qu'elle a vu, soit ce qu'elle entend dire, et qui est pas tout à fait juste, parce que là, elle parle d'un départ à Paris à 4 heures vers Versailles. Or, en fait, ce qu'elle n'a pas vu, elle raconte la confusion du matin, la peur et la confusion. Donc, je pense qu'elle va être dans les rues, elle entendait des. Puis d'ailleurs, souvent dans les autres lettres, elle raconte comment elle a entendu des gros parler dans la rue. Bon. Pour revenir au 5 octobre, ce qu'elle oublie complètement, c'est qu'il y a eu une première marche, ce qu'on appelle à la coutume d'appeler la marche des femmes sur Versailles. Elle n'en parle pas. Ces femmes sont parties le matin et elle parle du cortège qui les a rejoints l'après-midi.
Ce qui est très intéressant, Annie Duprin, dans ses lettres, c'est qu'effectivement, il y a ce qu'elle voit ou ce qu'elle entend, ce qu'elle relaie. Puis il y a tout ce qu'elle ne relaie pas, parce que ces lettres sont lacunaires. Vous vous posez la question d'ailleurs, et les autres historiennes qui ont travaillé avant vous sur ce corpus de lettres se posent la question de savoir pourquoi à certaines périodes, pendant un an presque, il n'y a pas de lettres, et puis pendant d'autres périodes, on les a gardées. Donc est-ce que c'était pour pouvoir se protéger, pour pouvoir ne pas conserver des preuves d'un engagement tel ou tel pendant la Révolution française? Mais, et donc, les lettres qui n'existent pas, on ne saura jamais ce qu'il y a dedans. Et puis, il y a celles qui existent, mais qui ne relaient pas la totalité de l'information dont on pouvait disposer à Paris à ce moment-là.
Oui, alors, pour les journées d'octobre, moi, je pense qu'elle devait être chez elle, mais elle devait entendre les rumeurs, quand même, les bruits, parce que c'est tout de même, elle déménage beaucoup dans Paris, hein, elle se déplace tout le temps. Enfin, c'est une femme qui a véritablement la bougeotte, aussi bien à travers la France qu'à travers les rues de Paris. Alors, pour les lettres lacunaires, ces lettres ont été d'abord recopiées par son fils, Marc-Antoine Julien, formant ce qu'on appelle le cahier vert. Il a payé un copiste pour recopier les lettres et évidemment les trier. Ensuite, donc, publiées par l'arrière-petit-fils. Il y a une absence très dommageable, c'est la Bastille. On n'a rien, justement, jusqu'aux journées d'octobre. Il y a d'autres absences très dommageables, et en particulier les journées de Prairial, parce que la violence est très forte. Or, tout autour des journées de Prairial, donc on est en 1795, elle parle de la famine. Là, il y a le mot de disette qui est employé pendant les journées d'octobre. Ça, c'est quelque chose, elle dit, nous tient au collet, la famine nous tient, la disette nous tient au collet. C'est quelque chose que l'on trouve assez volontiers chez Rosalie. Et puis, va manquer aussi, mais là, je pense que c'était délibéré de sa part. Je ne sais pas si c'est des lettres absentes, je ne crois pas. L'évocation, alors, à la fois de Brumaire, et puis du couronnement de Napoléon. Son attitude par rapport à Napoléon, c'est plutôt in abstentia, c'est-à-dire elle ne cite pas son nom. Il y aura le premier consul et puis après c'est tout.
Alors, parfois elle n'écrit pas aussi parce que
oui, parfois
mari
elle n'écrit
est
pas
sur Paris,
parce qu'ils sont là. Aussi. Bon, par définition, voilà. Quand ils sont avec elle, elle leur écrit pas.
Dominique Godino, sur ce qu'elle dit dans ses lettres, il y a aussi des phrases assez formidables. On est dégoûté de la parole à cause du parlage, dit-elle en août 89. Comme si cette ville était saisie d'un désir de parole qui finissait par faire un bruit conséquent et qui finissait par casser les oreilles de chacun qui se trouve à Paris à ce moment-là.
Oui, ça, elle le décrit très bien. Et puis, on ne peut que remercier Annie Duprin d'avoir mis ses lettres à disposition, hein, parce que c'est formidable, quoi, de voir ce témoin qui, elle, souvent, on dit que, on la voit, dans la rue, elle raconte comment il y a des groupes, on parle de ceci, de cela, on dit que, on ne dit pas que, enfin, moi, elle sait plus trop où on en est,
Sur cette peur que j'évoquais tout à l'heure, elle dit, le 27 août 89, je regretterais la solitude au milieu de ce fracas, la solitude n'était pas au milieu de Paris où j'ai peur. Elle a peur, en l'occurrence.
Elle le dit assez fréquemment qu'elle a peur. Et le plus extraordinaire, c'est de lire les massacres de septembre, vus par Rosalie, parce que, véritablement, il y a le jour où elle a peur, le lendemain où elle justifie, le troisième jour où, à nouveau, elle dit oh non quand même. Enfin, il y a un changement d'opinion qu'elle a face à un événement qui lui fait franchement très peur.
Oui, on a vraiment l'impression, Dominique Godino, c'est comme une météo changeante. C'est-à-dire que l'esprit de Rosalie Julien, mais peut-être de beaucoup des Parisiens, était chamboulé selon les nouvelles qu'on rapportait de la frontière, des frontières, les nouvelles que l'on rapportait de ce qui se passait en province, les nouvelles que l'on rapportait du Pont Neuf, où elle envoyait sa domestique prendre des nouvelles, en l'occurrence, et qu'on a un esprit changeant.
C'est exactement ça, parce que il y a, comme vous le dites tout à l'heure, un afflux de nouvelles, et finalement, qui peuvent être parfois contradictoires. Les massacres de septembre, c'est les lettres de début septembre 92, sont effectivement extraordinaires parce que au début, c'est la confusion. Elle ne sait pas ce qui se passe exactement. Elle entend des bruits, mais est-ce que c'est les Prussiens qui seraient pas aux portes de Paris, mm-hmm. qui seraient déjà arrivés? Donc ça nous donne vraiment le récit d'un témoin. Nous, on sait comment les choses se sont passées. Mm-hmm. On fait le tri. Elle ne le fait pas tout de suite. Elle le ferait, comme disait Annie, quelques jours après. Elle remet les choses en ordre, mais au début, elle reçoit les événements tels quels, bruts.
Et elle les écrit.
Et donc, on se rend compte.
Et elle passe la nuit à les écrire.
Ouais. Oui.
Septembre, c'est la nuit. Elle met l'heure, en plus. Ouais.
Une lettre à Marc-Antoine Julien Fils, qui se trouve à ce moment-là à Londres, adressée poste restante à Calais, département du Pas-de-Calais, Mélodie Auru.
Paris, mardi 10 juillet 1792. J'avais envie de te faire un petit précis politique de toutes nos affaires, depuis samedi jusqu'à aujourd'hui, mais M. Hury, que j'ai vu ce matin, m'a dit qu'il t'en avait rendu compte. Je le devancerai aujourd'hui par la nouvelle du jour. J'arrive de l'Assemblée. Les 5 ministres qui y ont paru hier et ce matin, pour rendre compte de l'état du royaume et des forces de nos ennemis, ont divagué de manière que les plus sots ne pouvaient être leurs dupes. Ils ont terminé leur fallacieux rapport par une phrase qui a été couverte d'applaudissements. Nous faisons part à l'Assemblée que ce matin, nous avons, tous 5, donné au roi notre démission. Les bravos les ont honorablement reconduits à la porte. Notre brave Pétion est toujours suspendu de ses fonctions. Je vois dans la lenteur que l'on met dans cette affaire une malveillance scélérate des valets de cour. Cependant, j'attends, avec toutes les sections de la capitale qui le redemandent à corps et à cri, ainsi que tout le peuple, qu'il sortira glorieusement demain des griffes de ses ennemis. Son crime est de n'avoir pas fait tuer légalement, le 20 juin, une 20 000 âmes pour les menus plaisirs d'une cour sanguinaire. Pour certains sots, les crimes des rois sont des peccadilles, et les peccadilles du peuple de grands crimes. Que le bon La Fontaine avait raison. Dans sa fable des animaux malades de la peste, on crie « haro sur le baudet ». Pauvre peuple, que tu es grand à mes yeux dans ta grossière droiture, et qu'ils sont petits et grands dans leur perfide urbanité. Le rassemblement n'est entré dans le Louvre qu'accidentellement. Au reste, cette faute, si c'en est une, nous a valu plus d'une découverte et a fait connaître Lafayette. Le masque tombe, l'homme reste et le héros s'évanouit. D'ici à 8 jours, nous verrons ce qu'on décidera de lui. Toutes les 100 bouches de la renommée l'accusent, ainsi que le pouvoir exécutif dont il est le puissant protecteur. Mon Dieu, quel choc d'événements j'entrevois, et que le Sénat perd de sa force par ses lenteurs.
Alors on voit progressivement l'opinion de Rosalie Julien changer dans cette Révolution française, Annie Duprin. Elle prend progressivement de plus en plus part à la Révolution, elle prend part aussi au débat et elle se colle, pourrait-on dire, assez rapidement à un camp qui est plus ultra que les autres, donc ce camp qui est représenté par Pétion et par Robespierre à ce moment-là, qui sont deux personnages centraux. Il faut le rappeler, le livre de Pierre Cassel qui vient de sortir, qui s'appelle « L'anti-Robespierre », nous rappelle justement le rôle de Pétion. Avant qu'il soit banni par la Révolution, il était véritablement une des grandes figures de cette Révolution française. Et Rosalie Julien le défend dans ce moment très particulier, qui est le moment de juillet 1792, Annie Duprin.
Oui, alors ça fait partie des changements lents quand même, même si la Révolution, ça s'est produit en très peu de temps, de Rosalie Julien. Elle a une passion pour Pétion, mais en cela, et d'ailleurs elle dit que le meilleur c'est Pétion par rapport à Robespierre. À un moment, vraiment Robespierre qu'elle fréquente, hein, qu'elle reçoit à sa table.
On en parlera tout à l'heure.
Voilà, lui apparaît un homme un petit peu froid. Pétion, c'est vraiment, je ne dirais pas l'idole du peuple, mais presque. C'est aussi ce qu'écrit Pierre Cassel. En revanche, et là, en juin 92, dans le fond, si Pétion avait fait passer par les armes les gens qui tentaient d'empêcher la Révolution d'avancer, ça aurait été très bien. En revanche, évidemment, en 93, Pétion est embarqué dans la déroute des Girondins, et à ce moment-là, Rosalie change d'avis. Mais dans ce qu'elle dit de Pétion, on voit véritablement, alors à la fois les changements de posture, mais parce qu'il y a eu aussi changement d'événements de la Révolution, et puis la passion de Rosalie.
La passion, qui est une passion que vous qualifieriez comment ? Qui est une passion révolutionnaire ? Qui est une passion pour le changement et les bouleversements du Paris de l'époque ?
Oui, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de Rosalie avant la Révolution, mais avant la Révolution, c'est une femme des Lumières, elle lit Necker et elle en parle dans ses lettres, elle défend la vaccination, c'est une femme du progrès. Et donc là, elle est du côté de la Révolution.
Là, on voit bien qu'elle cite Rousseau d'ailleurs.
Mm-hmm. Oui, absolument, elle cite beaucoup Rousseau.
Dominique Godinot.
Oui. Et ce qu'on voit aussi très bien, c'est bon, dans ce moi, ce qui m'a frappé, et ça revient dans toutes les lettres, même en fait après la Révolution, quand elle est plus en retrait, c'est ce qu'elle peut partager probablement avec certains montagnards, c'est une sorte d'amour du peuple. On a entendu le peuple est sublime, le peuple est grand, et une
dans sa grossière droiture.
Dans sa grossière, elle a des formules extraordinaires. Hein, oui. Dans sa et ça revient régulièrement dans les lettres. Hein, c'est une sorte de pathos pour le peuple. Hein, et quand on retrouve par exemple chez Robespierre, hein, c'est très intéressant. C'est et je pense, enfin, je la connais moins bien qu'Annie, mais j'ai l'impression que ça fait partie aussi de son engagement, cette idée que on se bat aussi pour que le peuple ne soit plus écrasé.
Mm-hmm. C'est vrai.
Ce qu'on entend là aussi, j'arrive de l'Assemblée, hein, c'est sa passion pour la politique. Mm. Alors. Elle est certes, on est en révolution, mais on sent aussi que c'est une femme passionnée par les débats, qui va donc à l'Assemblée, qui lit la presse systématiquement. Hein, donc c'est aussi en ce sens-là qu'elle paraît exceptionnelle, mais peut-être qu'elle ne l'est pas tant que ça. Donc il faudrait peut-être revenir sur voilà, l'accès aussi des femmes à l'Assemblée à ce moment-là.
C'est là où elle est quand même étonnante, parce que la passion politique, je pense que beaucoup de gens la partageaient, surtout quand un événement pareil se produit. En revanche, Rosalie Julien va à l'Assemblée quasiment tous les jours. Elle fréquente pas les clubs, hein. Elle fréquente l'Assemblée. Et à la demande d'ailleurs de son mari, hein, qui est souvent lui à Romans parce qu'il a des choses à faire, et de son fils, hein, qui lui demande. Bon, et elle est amusante parce que quand un jour elle écrit, on est en septembre 93. On nous a fait sortir sur je ne sais quel prétexte de l'Assemblée. C'est dommage, je cite évidemment approximativement. Je serai moins bien placée ensuite. Et ensuite, elle continue à aller à l'Assemblée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interdiction des femmes à l'Assemblée, mais il y a suppression des billets de privilège qui lui permettaient d'avoir une bonne place. Mmh. Après, elle est mélangée avec le peuple quand même.
Dominique Godinot, vous travaillez d'ailleurs ces temps-ci sur ces questions des tribunes à l'Assemblée pendant la Révolution française. C'est quoi alors cette histoire des tribunes ? C'est-à-dire que l'Assemblée est assez grande pour contenir, dans certains des moments, aux Tuileries, presque 1000 personnes, c'est
ça ? Oui, c'est ça. Avec, comme vient de l'évoquer Annie, jusqu'au 31 mai 1793, deux sortes de tribunes. Des tribunes, ce qu'on appelle les tribunes réservées, donc on entrait avec des billets réservés que distribuaient les députés. Mais alors, c'était très mal supporté parce que ça apparaissait comme contraire à l'égalité. Et en plus, il y avait un trafic de billets qui était vendu jusque devant même l'Assemblée.
Ah oui, c'est comme devant le palais omnisports de Bercy aujourd'hui.
Oui, c'est tout à fait. Et puis, ce qu'elle appelle les grandes tribunes, effectivement, là où n'importe qui pouvait rentrer. C'est pas du tout comme aujourd'hui, il fallait faire une demande, etc. Vous passiez devant l'Assemblée, vous voulez rentrer dans les tribunes ouvertes à tous, vous pouviez ce qu'on appelait les tribunes publiques. Et ce qui est aussi étonnant chez Rosalie, c'est que c'est une femme, on va dire, de la bourgeoisie, qui a accès aux tribunes réservées parce qu'elle connaît du monde, mais qui, à partir d'un moment, quand elle se rend compte, comme elle dit, que les aristocrates, entre guillemets, occupent les tribunes réservées, préfère aller dans les tribunes publiques, quitte à être un peu bousculée.
On a du mal à se faire une idée de ce qu'était l'ambiance de cette Assemblée nationale. On sait que Arlette Farge a tenté de restituer le son du XVIIIe siècle dans un de ses livres, en l'occurrence. Mais qu'est-ce que vous pouvez imaginer ? Est-ce que vous pouvez nous donner une image presque sonore de ce que ça représentait ? Plus de 1000 personnes dans une assemblée sans micro, bien évidemment, avec des orateurs qui devaient se faire entendre de ces 1000 personnes.
Je ne sais pas s'il y avait toujours 1000 personnes, si elle était toujours pleine, mais il se faisait entendre, ça devait être aussi rapporté. Ce qui est très intéressant, c'est que dans les tribunes, il y a... Alors, la plupart du temps, il faut quand même le dire, les tribunes sont calmes.
Oui.
Mais dans les périodes de crise, elles interviennent en apostrophant les députés, alors le plus souvent en applaudissant, mais parfois elles les sifflent aussi. Et les femmes étaient très présentes dans les tribunes.
Charles Walton, il y a quelques années, dans un livre publié au Pur sur la liberté d'expression, l'occupation pendant la Révolution, évoque une anecdote tout à fait savoureuse. Le bruit n'est pas seulement à l'intérieur de l'Assemblée, mais il peut être à l'extérieur. Et il y a, j'ai oublié le nom de l'affaire, hein, mais il donne des archives, hein, on est assez tôt dans la Révolution, en 90, je crois, où les gens crient, font du bruit autour du bâtiment, et ça s'entend à l'intérieur. Donc il y a véritablement là une vie dont on n'a plus idée aujourd'hui.
Donc on a compris qu'elle se vit, elle se comporte comme une citoyenne, mais elle ne revendique pas des droits. Enfin, forcément, oui, le droit de vote, notamment pour les femmes, il y a quand même la Déclaration des droits de la femme d'Olympe de Gouges, il y a de nombreux clubs féminins, mixtes ou non mixtes, le Club des femmes de Dijon, la Société fraternelle des Jacobins, enfin, et de nombreux autres. Mais elle, Rosalie Julien, c'est pas son propos.
Non. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point Rosalie Julien, qui est une femme engagée auprès du peuple, auprès des idées nouvelles, etc., ne met pas en avant sa condition de femme. Elle est femme d'eux et mère d'eux, hein, bien sûr, mais elle n'est pas féministe, on peut le dire. C'est-à-dire, elle ne se vit pas comme étant quelqu'un de différent des autres. Elle est véritablement dans les autres. Elle ne réclame pas le droit de vote. Elle l'évoque même pas. Et quand elle évoque à l'Assemblée nationale le don patriotique, les femmes qui offrent leurs bijoux, elle a une formule un petit peu ironique et elle dit « Je me croyais au forum romain ». Elle voit ces femmes qui font du cinéma, on dirait aujourd'hui. Donc ça, c'est tout à fait étonnant. Mais au passage, il faut quand même se souvenir que Olympe de Gouges nous a beaucoup marqué à travers les recherches qui ont pu être faites au XXe siècle et puis tout récemment sa statue, son buste à l'Assemblée nationale. Mais la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne a été imprimée à 4 ou 5 exemplaires. Mmh. Et elle n'a pas été connue à l'époque.
Oui, mais il y a quand même de nombreux clubs. Il y a certaines femmes en région qui revendiquent, en l'occurrence,
elle ne va pas dans les clubs.
En Côte d'Or, je sais que c'est Jean-Clément Martin qui en parle aussi dans La Révolte brisée.
C'est-à-dire que les clubs de femmes, en fait, il y a très très peu de femmes qui ont revendiqué directement le droit de vote pendant la Révolution. C'est vraiment pour les compter.
Mais de participer aux assemblées.
Et voilà. Moi, ce que je dirais, c'est que sont beaucoup plus nombreuses celles qui revendiquent au moins d'avoir une identité de citoyenne. C'est-à-dire avec des droits patriotiques, mais au moins de pouvoir participer à la vie politique et d'être considérées comme des citoyennes. Alors, pas à part entière, bien sûr, parce qu'elles n'ont pas les droits, hein, mais celles qui demandent les... Et dans les clubs, d'ailleurs, ne demandent pas tellement... Enfin, il y en a quelques-uns, hein, mais c'est vraiment pas la majorité. Et de même, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, on n'en parle jamais pendant la Révolution. Olympe de Gouges n'est pas connue pour cela. Ouais, elle est connue, mais pas pour cela.
Vie publique, vie privée, une lettre de Rosalie Julien à Marc-Antoine Julien Fils, qui est alors missionné par le comité de salut public à Tarbes. Et c'est une lettre où elle évoque justement un peu de sa vie privée dans ces années-là.
Paris, 20 juin 1793. Barrère a dîné mardi chez nous. Avec Robespierre, c'était le bienheureux jour de la fin de la discussion du pacte social. Il était 7 heures du soir quand on s'est mis à table et les convives étaient affamés, quoique rassasiés de gloire, car Barrère avait parlé, ainsi que Robespierre, avec tant de justice et d'éloquence, qu'ils avaient tous deux joui des plus sincères applaudissements. J'ai dit aux cousins ce que j'avais sur le cœur. Et puis nous avons bu à la santé de toute notre famille tarbienne, sans oublier Manlius, le joli nègre. Nous devons nous voir souvent pour alimenter la douce fraternité qui doit réunir tous les vrais républicains. Le Sénat présente aux yeux des spectateurs attendris d'admiration le calme le plus auguste. Les tribunes sont dans un silence majestueux et si quelque Pyrrhus autrichien ou prussien nous envoyait un Sénat, il pourrait bien leur apporter la même réponse. Vive la montagne. Elle prouve d'une manière sublime, qu'elle n'est pas animée d'un autre amour que de celui du bien public. On cherche encore à agiter Paris par de sourdes menaces, d'enlever le petit prisonnier du temple pour le mettre à la tête des rebelles de la Vendée. Les complots aristocratiques se succèdent avec une activité infatigable. Celui-ci qui est à l'ordre du jour n'est pas sans fondement, et déjà, on en tient différents fils. Il y a encore une petite disette factice de pain, qui alimente la mauvaise humeur de bien des faibles. Pour nous, on y voit un trait de malveillance, car nous avons d'amples provisions. Le démon de la discorde plane, en vain, sur Paris. L'instruction et la force de l'esprit public nous feront éviter tous les pièges. Les modérés, froids échos des aristocrates et de l'infernal brissotinage à l'agonie, poussent encore cette clameur impie. Les départements vont nous couper les vivres.
France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
Toute cette semaine dans la fabrique de l'histoire, nous évoquons la façon dont on écrit aujourd'hui l'histoire des femmes et du genre. Et nous nous intéressons aux lettres de Rosalie Julien, une femme dans la Révolution, qui viennent d'être publiées sous le titre « Les affaires d'État sont mes affaires de cœur » par Annie Duprin chez Belin. Et nous en discutons avec Dominique Godineau et avec Séverine Liattard. Alors voilà une lettre qui dit combien elle est proche là de Robespierre dans un moment important. Nous sommes en juin 1793 et donc là il y a effectivement du danger un peu partout, et en particulier les guerres de Vendée qui se déclenchent, et on en a les échos à Paris en l'occurrence.
Oui, alors Rosalie est très très inquiète de la Vendée, très inquiète aussi des guerres à l'extérieur, hein, elle en parle sans arrêt, mais pour la Vendée c'est une excellente appréhension de ce qu'est la province par rapport à Paris. Parce que elle parle évidemment de la Vendée, les dangers, les risques, mais régulièrement aussi elle dit, et en particulier quand elle va accuser Marat, elle dit « je crains Marat parce que il va nous séparer de la province. Je crains l'écho de Marat en province. Les excès en parole ou en action des uns et des autres l'inquiètent, et dans la lettre qui vient d'être lue, il y a également l'idée de la disette factice. Or, on sait bien, avant la Révolution, c'était le complot de famine, pendant la Révolution, il y a ça, toujours l'idée de faire peur au peuple et donc de créer une angoisse supplémentaire.
Dominique Godineau.
Oui, mais écoutez, là-dessus, oui, elle a, c'est quelqu'un qui a quand même aussi c'est pas seulement une lectrice aussi, c'est pas seulement une spectatrice des débats de l'Assemblée, c'est aussi quelqu'un qui produit des analyses, des analyses politiques et,
elle aime la politique.
Elle aime la politique. Et ça aussi, c'est intéressant parce que, féministe ou pas féministe, tout ça, ça ne l'empêche pas de considérer qu'elle a, avis et que cet avis est légal et qu'il est légitime,
normal.
Et qu'il est normal, et qu'il est normal qu'elle exprime, et qu'il ait autant d'intérêt que celui d'un autre.
Le 10 mai 1792, elle dit « me voilà entrée dans la politique sans y penser ». C'est ça qui est intéressant.
Et là, on voit bien, elle est sur un pied d'égalité avec son mari et son fils. Oui. Et d'ailleurs, elle leur donne même des conseils. Elle est là, elle est comme relais.
Surtout au fils.
Surtout au fils.
Au fils, elle donne des conseils de politique, des conseils de vertu aussi. Et quand il est en Angleterre, elle lui dit « tu ne parles pas trop, tu observes, fais attention ». Et ce qui est important avec Rosalie Julien, c'est qu'elle est quand même au cœur de la politique. Elle est épouse d'un député quand même. Hein. Marc-Antoine Père était conventionnel. Et c'est pour ça qu'elle reçoit Robespierre à sa table.
Et son fils est envoyé en mission par le comité de salut public.
C'est Pierre Gascard qui a trouvé le très bon titre pour le fils de Marc-Antoine Fils. Il l'appelle l'ombre de Robespierre. Il a 17 ans quand même quand Robespierre l'envoie dans les provinces pour surveiller les provinces.
Et dès 14 ans, au tout début de la Révolution française, elle raconte qu'elle ne peut pas le tenir parce qu'il va justement à l'Assemblée dès 14 ans pour écouter les discussions révolutionnaires.
Oui, moi, ce que je voudrais rajouter, puisque là, Rosalie, on l'a dit, c'est une femme de la bourgeoisie, une femme d'un député, mais ce sentiment que sa parole, c'est parce qu'on est une femme que sa parole politique devrait être seconde, on retrouve la même chose dans d'autres milieux, dans la sans-culotterie, dans les milieux populaires. Les femmes qui s'expriment peuvent aussi donner un avis différent des hommes, défendre leur avis, et voilà, de ce point de vue-là, c'est pas quelque chose qui est spécifique à ce milieu-là.
Et puis, elle se fait le rapporteur pour son fils, par exemple, lorsqu'il
est parti.
La rapporteuse. Vous avez raison, la rapporteuse.
Rapporteresse.
La rapporteresse, voilà. Donc, elle se fait donc le témoin donc de ce qu'elle voit à Paris pour son fils quand il se trouve à Tarbes, justement, envoyé en mission.
Paris, lundi 8 juillet 1793. Pourrais-je vous rendre au naturel les tableaux magnifiques et touchants qui depuis 3 jours charment mes yeux et ravissent mon cœur? Je voudrais vous présenter, dans le même cadre, tous les objets que nos journalistes détachent et mutilent pour ainsi dire, en les séparant. Je n'ai pas quitté le Sénat depuis 3 jours. Sans exagération, les plaisirs du ciel ne peuvent être plus purs et plus divins. Du haut de son trône, l'être suprême a jeté un coup d'œil de complaisance sur un peuple de frères réunis, tous, dans les liens de la concorde et marchant sous la bannière auguste de la liberté et de l'égalité. Paris offre à l'univers ce que l'univers n'a jamais vu et ce que personne ne peut contempler sans être frappé d'admiration. Chacune des 48 sections est venue, en particulier, offrir au Sénat son acte d'approbation à la nouvelle Constitution et l'hommage de sa reconnaissance à ses généreux législateurs. Le génie français est inépuisable dans ses ressources et dans sa riche variété. Imaginez d'abord 2 ou 3 000 personnes rassemblées, hommes, femmes, enfants, ayant à leur tête de braves citoyens militaires, marchant tous avec ordre, au bruit d'une musique mélodieuse, en faisant retentir la voûte du Sénat de l'air, où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille ? Arrivé au milieu de la salle, vis-à-vis le président, le drapeau tricolore flotte sur la tête d'un orateur, qui, après avoir présenté, avec la simplicité de la grandeur, le procès-verbal de l'acte approbatif, prononce un discours civique rempli de toutes les richesses de l'éloquence. Il est suivi de 1000 cris, de « Vive la République !» 2 ou 3 000 chapeaux agités en l'air forment, dans ce moment d'allégresse générale, un spectacle si piquant, si bruyant, si ravissant, qu'il est au-dessus de toutes les peintures. Tout à coup, le silence le plus profond, au moindre signal, et la réponse majestueuse du président.
Alors là, on perçoit tout à fait l'enthousiasme de Rosalie Julien, la fête de la Convention, avec une description extrêmement précise de ce qui se passe, de ce qui se déroule devant ses yeux.
La description est très très précise et je suis allée voir les archives parlementaires qui racontent ces journées, qui sont les journées d'approbation de la future constitution de l'an 1 par chacune des 48 sections de Paris. Et il y avait à la Convention effectivement des chants, des fleurs, etc., les chapeaux levés en l'air, ce qui est vraiment la liberté. Et ce que raconte Rosalie est absolument exact. Les archives parlementaires confirment.
Oui. Dominique Godinot.
Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, le vote de l'acceptation de la Constitution de 93 est un moment extrêmement intéressant pour les femmes, enfin pour les femmes, pour l'histoire en tout cas, des femmes et du genre, parce que dans plusieurs villes, dans plusieurs dizaines de villes en province, là elle raconte Paris, mais des femmes se sont réunies et ont voté leur propre acceptation de la Constitution. Ah oui. Et non seulement elles l'ont voté, mais elles en ont fait part à l'Assemblée. Donc vous voyez, c'est une façon de dire qu'elles aussi, elles sont, comme elles disent, elles votent l'acte constitutionnel présenté à la sanction du peuple souverain. Et c'est à cette occasion que quelques femmes ont demandé justement le droit de vote.
Ce qui est quand même tout à fait étonnant, c'est la conscience qu'a Rosalie Julien de l'importance de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que on voit bien qu'elle est au cœur de la Révolution, elle est au cœur de Paris, qui est le cœur de la Révolution pendant ces années-là. Et quand elle écrit « Paris offre à l'univers ce que l'univers n'a jamais vu et ce que personne ne peut contempler sans être frappé d'admiration », le génie français est inépuisable dans ses ressources et dans sa riche variété. Il y a là la source de ce qu'on peut appeler le patriotisme des révolutionnaires, en l'occurrence.
Ah oui, complètement. Et alors on voit bien aussi que il doit y avoir quand même aussi des... Elle est dans un milieu donc de députés et on voit bien qu'il y a des choses qui circulent parce que il y a des phrases dans la la fête qui a été organisée pour l'acceptation de la Constitution par David. David a fait un plan donc de la fête et on retrouve parfois quasiment les mêmes phrases. Donc on sent bien. Puis à d'autres moments, on sent bien qu'il y a des moments, des choses qu'elle a qui viennent d'elle.
Vous voulez dire qu'il y avait déjà des éléments de langage comme on le dit dans la politique.
Il y avait des discussions.
Est-ce que les journaux aussi sont elle une source importante parce qu'elle lit beaucoup les journaux, ça on le sait.
Elle lit énormément de journaux et j'ai compté combien de titres de presse. Alors, j'en trouve autour de 48. Je dis autour d'eux parce qu'il y a des journaux qui changent de titre, hein, donc c'est un petit peu difficile de dire si c'est un journal différent ou pas. Et alors, de plus en plus pendant le directoire, parce que là, la situation est politiquement plus délicate à comprendre. Il y a peut-être moins de bruit dans les rues, mais il y a quand même des problèmes de nomination de directeur. Elle est au cœur du réacteur, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, à la fois parce que son mari est député et qu'elle fréquente tous ces hommes politiques, mais surtout parce qu'elle lit les journaux. Donc, les éléments de langage, elle les a dans les journaux.
Alors, il y a tout de même quelque chose qui va arriver, c'est la chute de Robespierre, dont elle se trouve très proche. On est donc en 1794, et Rosalie Julien écrit une lettre à Monsieur G.
Paris, 29 août 1794. Je ne puis pas imaginer que le représentant Isabeau pousse la passion et la vengeance jusqu'à étouffer la vérité et la justice qui réclament en faveur de l'innocence. Mon fils, fort de sa conscience, n'a pas perdu un moment ce sang-froid imperturbable qui m'a frappé moi-même d'admiration. Il a rassemblé ses moyens de défense. Des papiers sans nombre attestent que sa conduite à Bordeaux n'a été que le résultat des lumières reçues par les patriotes, que ses opérations ont été commandées par un comité du salut public, organe de la Convention, et qui était investi alors de la force de l'opinion publique. Il n'a pas fait un pas sans ordre signé de tous les membres et sanctionné par le patriotisme des Bordelais. Avec quelle énergie, emporté par son ardent amour pour la liberté, il s'est dévoué pour la gloire de cette grande cité dont la masse est pure et patriotique. Combien de veilles, de travaux, quelle conduite et quelle récompense ! Citoyens, la calomnie, qui a été assez audacieuse pour prononcer les impostures les plus grossières, disait à Paris que Julien allait à Rochefort pour soulever le peuple contre la Convention nationale, au moment où il l'a rallié par les principes dans l'écrit le plus énergique. On a dit qu'il fuyait, tandis qu'il revenait avec tranquillité. Un Bordelais nous est venu assurer que le représentant Isabeau disait, dans votre commune, que Julien était hors de la loi, pour paralyser par ce blasphème tous ceux qui auraient osé prendre là sa défense. Tout cet échafaudage de mensonges est tombé à l'aspect auguste de la vérité. Brave citoyen, cet infâme Robespierre, dont on ose dire et imprimer que Julien était l'agent, était le fléau et l'épouvantail de notre famille. Je le craignais comme le feu. Et nous voyons depuis longtemps que dans l'orgueil de son caractère était, et sa perte, et des maux innombrables pour notre chère patrie. Mais la terreur, comme la mort, planait sur nos têtes, et elle nous a glacés comme tant d'autres.
Voilà une Rosalie Julien qui oublie qu'elle a reçu à sa table Robespierre, qu'elle ne le trouvait pas si désagréable que cela. Mais évidemment, nous sommes après la chute de Robespierre et elle tente de défendre son fils.
Son fils, oui.
Qui était peut-être, d'ailleurs, disiez-vous avant l'émission, à la poursuite de Pétion, justement, qu'elle avait pourtant elle-même portée au pinacle et adorée.
Ça, c'est la brutalité et la rapidité des événements révolutionnaires. Marc-Antoine Fils quitte Bordeaux aux environs du 30 juillet 1794. Donc, mais il ne le sait pas, juste après l'exécution de Robespierre. Et donc, il arrive à Paris et immédiatement direction prison. Marc-Antoine est emprisonné. Il ne sera libéré qu'en octobre 95, non pas à cause ou grâce à l'action de sa mère, mais tout simplement grâce à l'amnistie qui a été prononcée. Ça fait quand même un an et demi, pratiquement plus d'une année de prison. Alors, au début de la lettre, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle parle d'Isabeau et de Tallien. Or, ça fait partie des difficultés qu'avait eues Marc-Antoine quand il était à Tarbes, Bordeaux. C'était de savoir ce que faisaient Isabeau et Tallien, qui sont des représentants en mission, et Tallien en particulier. On sait bien qu'il jouait déjà double jeu.
Donc, ce sont de formidables lettres dont il nous faut dire qu'il faut les lire pour mieux comprendre ce qu'est le cœur de la Révolution française, Dominique Godineau. Et on peut dire que ça tombe bien aujourd'hui puisque est réuni aux Archives nationales, sont réunis beaucoup de gens qui réfléchissent justement à la collecte et aux archives des femmes. On en parlera en fin de semaine avec en particulier Françoise Thébault qui est au cœur de cette journée des Archives nationales. Qu'est-ce qui se décide dans un colloque comme celui-ci? On va faire des communications sur ce qui permet de faire aujourd'hui l'histoire des femmes et les archives d'histoire des femmes, en l'occurrence. C'est aux Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine aujourd'hui. Donc, et c'est toute la journée. Et puis, je voulais aussi rendre hommage, puisque c'est aujourd'hui qu'on remettra le prix qui porte son nom à une grande historienne, Jeanine Ponty, dont on a appris la disparition la semaine dernière, aujourd'hui à 18h au Palais de la Porte Dorée, au Musée national d'histoire de l'immigration. Eh bien, on rend hommage à Jeanine Ponty en nommant le prix de la recherche de ce musée de l'histoire de l'immigration de son nom. Elle est disparue donc très récemment. Et la lauréate est quelqu'un que nous connaissons bien ici à la Fabrique de l'Histoire. Il s'agit de Catherine Gousseff, qui dirige directrice de recherche au CNRS et qui dirige le Centre Marc Bloch à Berlin pour son livre formidable qui s'appelle « Échanger les peuples » chez Fayard, le déplacement des minorités aux confins polono-soviétiques entre 1944-1947. Ce sont deux nouvelles d'actualité qui nous montrent effectivement combien il faut rendre hommage à la recherche quand elle est en train de se faire. Le prix de la recherche Jeanine Ponty, donc au Palais de la Porte Dorée ce soir à 18h. Et puis cette question qui est abordée par le colloque qui se tient aujourd'hui aux Archives nationales autour des archives des femmes. Merci à toutes les deux. Merci Dominique Godineau. On rappelle que vous êtes auteur, entre autres, des Françaises, des femmes sous l'Ancien Régime. C'est chez Armand Collin. Que vous travaillez donc à un ouvrage sur les tribunes révolutionnaires, et on attend avec impatience ce que vous allez nous en dire. Et merci à vous donc, Annie Duprat, pour Les affaires d'État sont mes affaires de cœur, les lettres de Rosalie Julien, Une femme dans la révolution, c'est chez Belin. Merci à vous, Mélodie Auru, ainsi qu'à vous, Séverine Yattard. Cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marsay. Jean-Frédéric nous a accompagnés à la technique et Françoise Camard à la réalisation. Demain, nous poursuivons notre série d'émissions en réécoute de la Fabrique de l'Histoire consacrée à la Révolution française. Et demain, nous vous parlerons de la vie quotidienne pendant la Révolution.